Les séminaires du Collège de France.
C'est un très grand plaisir d'avoir Christophe avec nous aujourd'hui. Je pense que tout le monde connaît Christophe, donc je ne vais vraiment pas le présenter longtemps. Je voudrais juste te dire que c'est un des rares physiciens dans notre communauté à avoir deux casquettes très différentes et d'avoir mettre ses casquettes avec beaucoup de gloire dans les deux cas. La première casquette, c'est sa casquette de physique à Encore, avec tout son travail sur les gaz de Fermi et aussi une partie sur les gaz de Bose. Sur les gaz de Fermi dégénérés, c'est lui le premier à avoir montré qu'un gaz de Fermi en interaction forte pouvait être stable, ce qui est un résultat considérable puisque c'est ça qui permet d'étudier justement ces gaz de Fermi à très basse température dans le régime superfluide tout en étant un gaz stable. Il a étudié la transition BEC-BCS. Avant, il avait étudié les solitons. On a parlé de ses expériences l'année dernière. Donc ça, c'est la première casquette. Et puis la deuxième casquette, c'est celle qu'il va mettre aujourd'hui. C'est celle d'horloger. Oui, donc avec le développement des premières horloges à Fontaine dans les années 90. Et puis donc un projet spatial. Projet spatial qui a également démarré dans les années 90. Donc il a mis du temps à décoller. Il a décollé, mais voilà, maintenant il vole et c'est de ça qu'il va nous parler aujourd'hui. Merci beaucoup Christophe d'avoir accepté de donner ce séminaire. J'ai oublié de dire que Christophe a vu plein de prix et il est membre de l'Académie des sciences. Et dans les prix, oui, je peux en donner deux quand même. Juste le prix Louis D de l'Académie pour la première casquette et l'an dernier le prix Balzan pour la casquette d'aujourd'hui. Voilà, deux prix très prestigieux.
Merci Jean. Je commence simplement en disant que je suis très heureux de revenir au collège, donner un séminaire ici. J'en ai donné quelques-uns sur toutes ces dernières années. Et aujourd'hui, donc, je vais vous parler d'une mission spatiale, la mission Pharao-ESEUS. Pharao veut dire projet d'horloge atomique par refroidissement d'atomes en orbite. ESEUS veut dire, c'est la version anglaise, Atomic Clock Ensemble in Space. Pharao a été développé avec l'aide du CNES, l'agence spatiale française européenne, et ESEUS avec l'aide de l'ESA. Donc c'est vraiment une coproduction CNES-ESA. Et alors, je commence avec ce petit, je ne sais pas dire, symbole de notre mission. Vous avez une horloge, un sablier, là, en orbite autour de la Terre, qui est illuminée par des... À l'intérieur, vous avez une assemblée d'atomes, et les petites boules bleues au milieu, là. Alors, ça, c'est le pointeur, voilà. Où vous avez typiquement 100 millions d'atomes de césium refroidis au degré microkelvin, à 1 degré au-dessus du zéro absolu. Et c'est en orbite autour de la Terre. Donc ça va être le sujet de cet exposé. Au fond, vous avez le visage d'Einstein qui nous rappelle que il n'y a pas de temps absolu au sens de Newton. Hein, c'est-à-dire que le temps qui s'écoule uniformément, le même partout sur Terre ou dans l'univers, c'est pas vrai. Hein, le temps est dépend de l'observateur et de la répartition de matière autour de l'observateur. Et enfin ici, la mécanique quantique, hein, qui est un des éléments essentiels pour réaliser une horloge atomique. Et c'est des franges d'interférence dont je vous montrerai leur origine dans cet exposé. Alors, pour commencer, je voudrais simplement juste remercier tous les gens qui ont contribué à cette mission, et depuis longtemps. Je vois Philippe Laurent dans la salle, là. Je crois que Philippe a travaillé sur les Fontaines dès 1993, quelque chose comme ça, et puis sur le projet Pharao, justement, dès sa genèse. Et c'est pour ça que je l'ai mis en jaune, ici, dans la liste. Hein. Ça, c'est... Les gens qui ont contribué le plus, il y a la liste de tous les collaborateurs hein, qui ont travaillé sur la mission, mais ceux qui ont contribué à ce que je vais présenter aujourd'hui, hein, qui est seulement une partie de ce qui a été obtenu pour l'instant. Donc Philippe et François-Xavier et Hénaud du CNES, c'est eux qui font marcher l'horloge Pharao dans l'espace quotidiennement et qui maîtrisent absolument tous les aspects, tous les boutons de l'instrument. Luigi Cacciapotti, c'est le project scientist de l'Agence spatiale européenne hein, qui coordonne tout ce beau petit monde. Alors, il y a les industriels qui ont développé, vous avez la liste des affiliations ici, qui ont développé l'instrument. Michel Abgral, qui est responsable avec Luca Lorini à l'Observatoire de Paris des fontaines au sol qui marchent très bien. Les résultats que je vais vous montrer sont des comparaisons avec ces fontaines à atomes froids qui réalisent la seconde au sol de très bonne qualité. Kurt Giebel, qui fait de la théorie sur les effets systématiques de l'horloge Pharao, Marc Lillet, Michael Ploumaris, Peter Wolf et Julien Rosé font l'analyse de données et j'en dirai un petit mot. Le transfert de temps entre le sol et l'espace, c'est quelque chose de pas du tout trivial parce qu'on veut le faire à une très bonne précision, entre la dizaine et la centaine de picosecondes. Et il y a un travail très important sur la compréhension et la correction des effets systématiques sur le système de transfert de temps entre le sol et l'espace. Voilà, j'ai oublié personne, Martin Vermouth qui fait l'orbitographie de la station spatiale. Et voilà. Donc, je voulais commencer par ça pour ne pas oublier de le faire, les acteurs importants de ce projet. Alors, je commence par quelque chose d'un tout petit peu plus général, c'est-à-dire que la physique moderne a quand même des problèmes fondamentaux aujourd'hui, hein, c'est-à-dire qu'il n'y a pas grand-chose qu'on comprend sur la répartition de la masse dans l'univers à partir des équations dont on dispose aujourd'hui, qui sont le modèle standard d'un côté, des particules, la mécanique quantique bien sûr dedans, et la relativité générale. Et donc, timidement, on dit, ben voilà, dans l'univers, avec les lois de la physique qu'on connaît, on connaît 5% de la répartition d'énergie dans l'univers. C'est quand même pas beaucoup. Alors le reste est divisé en deux catégories, la matière sombre, il faudrait dire sombre, et l'énergie sombre. Alors le mot sombre veut dire qu'on ne sait pas du tout ce que c'est. Hein. Et donc c'est quand même très inconfortable. Et ça vient d'observations en fait cosmologiques. Donc ça c'est un nuage de matière noire autour d'une galaxie. Alors la question qui se pose c'est est-ce que il existe des nouvelles particules? Hein, qu'on n'a pas détecté, ou est-ce qu'il faut changer les lois de la physique à certaines échelles? Alors ça, c'est un débat, il sort un papier tous les jours, dans un sens ou dans l'autre, sur Archive. Et ce que je voudrais vous montrer, c'est que les horloges atomiques et les interféromètres atomiques, qui sont en fait une sorte de variante hein, des horloges atomiques, mais qui sont sensibles, où on fait interférer les ondes de matière et non pas les niveaux internes de l'atome, peuvent faire des tests des lois fondamentales avec une très très haute précision. Un exemple magnifique, c'est les mesures qui sont faites dans une collaboration autour de Harvard et Yale sur la recherche d'un moment dipolaire permanent pour l'électron, hein, qui est dans le modèle standard, qui est incroyablement petit, mais dans d'autres théories alternatives, des théories supersymétriques, auraient une valeur non nulle. Pour l'instant, on trouve zéro, mais les tests ont progressé énormément. Les tests de relativité, bien sûr, hein, je vais vous donner un exemple, hein, la mesure de l'effet Einstein, le redshift, le décalage gravitationnel des horloges, hein, ça peut être fait avec des horloges avec une grande précision. Associé à tous ces problèmes et aux principes fondamentaux, donc le principe d'équivalence d'Einstein, on peut se poser la question, avec des horloges en particulier, est-ce que les constantes fondamentales de la physique sont vraiment constantes? Et c'est Dirac, en 1937, le premier qui s'est posé cette question. Est-ce que vous êtes sûr que les lois de la physique sont les mêmes maintenant que beaucoup plus tôt dans l'univers, il y a 10 milliards d'années? Et là, il y a eu beaucoup d'avancées récentes sur cette stabilité. Là aussi, on ne trouve pas encore de variation des constantes fondamentales, mais un niveau de quelques 10^-19 par an autour de l'époque actuelle. On peut aussi chercher la matière noire, la matière sombre avec ces horloges. Alors évidemment, il faut quand même mentionner, ce n'est pas l'objet de mon exposé ici, mais que les horloges ont des applications sociétales super importantes. Hein. On a besoin dans plein de domaines de faire du timing de précision. Alors évidemment, le système GPS, pour venir au Collège de France, la première fois où vous êtes venu, vous avez forcément utilisé vos téléphones portables avec la navigation. Il faut savoir que votre système GPS reçoit des signaux de satellites à 20 000 km et à bord de ces satellites, il y a des horloges atomiques. Hein, des horloges atomiques d'haute précision, tout simplement parce que le temps de propagation de la lumière entre l'espace et votre récepteur, la vitesse de la lumière CC, c'est 300 000 km par seconde, et donc si vous faites une erreur d'une microseconde, par exemple, sur le timing, eh bien vous allez faire une erreur de 300 mètres. Donc il faut des bonnes horloges à bord des satellites GPS ou Galileo, qui est la version européenne. Alors, pour répondre à certaines de ces conditions, ces questions en physique fondamentale, l'espace est un environnement vraiment unique, parce que ça apporte des propriétés tout à fait intéressantes, et je voudrais en mentionner quelques-unes là. L'espace apporte la possibilité de faire des longues chutes libres. Hein, et ça a été utilisé à la fois longue chute libre en orbite autour de la Terre, hein, puisqu'on compense la chute par la vitesse de rotation autour de la Terre. Et je voudrais mentionner la mission Microscope, qui a testé le principe d'équivalence avec une précision de 2,7 × 10^15. C'est le meilleur test actuel du principe d'équivalence avec deux masses dont on a mesuré le mouvement relatif en orbite, et montrer que le principe d'équivalence d'Einstein était vérifié avec ce niveau de précision. Je voudrais mentionner aussi des développements assez récents qui sont sur la Station spatiale internationale, que j'appellerai ISS dans cet exposé, l'expérience Baïkal, qui veut dire Bose-Einstein Condensates in Space, où on arrive à faire des températures atomiques extrêmement basses dans la gamme des picokelvin. Et les gens cherchent à faire des interféromètres avec ces gaz d'atomes ultra-froids, et la gravité, en fait, au sol, si on laisse ces atomes en chute libre, eh bien, ils acquièrent assez vite une vitesse importante, et c'est une perturbation pour faire des mesures de précision. Et dans les interféromètres atomiques, vous avez une séparatrice, les deux bras évoluent, on les recombine, et si je mets, j'appelle grand T le temps entre l'ouverture de la séparatrice et le temps avec lequel je recombine après, eh bien, on gagne en interférométrie atomique, comme le carré de ce temps. D'où l'intérêt de passer au sol, où on fait typiquement une seconde, à l'espace, où on peut faire 10, 20 ou 30 secondes. On peut gagner quadratiquement vis-à-vis, pour la précision de l'interférométrie atomique dans ces dispositifs. Alors, le suivant, voilà. Alors, évidemment, dans l'espace, l'atmosphère a disparu, et les télescopes comme Hubble et James Webb font des images absolument magnifiques des galaxies lointaines avec ces systèmes. Ça, c'est connu depuis longtemps, mais font des découvertes sur l'univers de plus en plus ancien de façon très intéressante. Et enfin, dans l'espace, vous pouvez faire des expériences à très très grande distance et pour lesquelles vous avez une très forte réduction des perturbations gravitationnelles. La Terre est quelque chose de mobile, hein, on le voit tout à chaque fois qu'il y a un tremblement de Terre, il y a les marées, etc. Et quand vous éloignez de la Terre, vous pouvez être dans un environnement où les perturbations gravitationnelles sont très petites. Et là, je voudrais mentionner l'expérience en cours de développement qui s'appelle LISA, qui sera un détecteur d'ondes gravitationnelles dans l'espace, et qui est prévu pour être lancé en 2035, peut-être un tout petit peu après, pour pouvoir détecter dans l'espace, sans les perturbations gravitationnelles qui sont au sol, les ondes de gravitation à basse fréquence dans la gamme du Hertz au millihertz. Et ça, c'est des fréquences qui sont précurseurs de ce que détectent aujourd'hui les détecteurs d'ondes gravitationnelles, qui détectent plutôt dans la gamme du kilohertz. Et donc, c'est simplement la fin de collapse entre deux trous noirs, par exemple. Et alors, bon, évidemment, en potentiel, quand on n'est pas dans le même potentiel que la surface de la Terre, le potentiel gravitationnel est différent, on peut utiliser ça. Et enfin, en orbite terrestre, on peut bénéficier d'une couverture globale. Alors ça, évidemment, c'est bien connu avec les satellites de télécommunication, mais on peut échanger des signaux sur tous les continents. Alors, donc, l'exemple de la mission Pharaoh-SE, ce que je vais décrire maintenant, utilise plusieurs de ces propriétés, utilise la possibilité de faire un long temps de chute libre, la couverture globale, hein, et puis le fait, on va tester le décalage gravitationnel, l'effet Einstein, en utilisant en propriété que le potentiel est différent à la surface de la Terre et dans l'espace. Alors, évidemment, tout ça, c'est merveilleux, mais il y a un prix à payer, hein, pour tout ça, c'est-à-dire que les développements d'instrumentation de pointe, si on veut faire de la métrologie temps-fréquence développée, nécessite de qualifier des expériences d'atomes froids qu'on a développées au sol, et ça prend du temps et de l'argent. Hein. Et donc c'est pour ça qu'il y a eu un certain temps entre la proposition du projet Pharaoh et 16. Alors là, c'est la vraie proposition à l'ESA, hein, en 1997, on en parlait avant, avec Jean et d'autres, et le CNES en 1991-92. On a fait des expériences préliminaires dans l'avion, dans la Caravelle 0G, et Philippe avait fait des expériences dans l'avion Airbus, en microgravité, pour montrer la faisabilité de ce différent type d'instrument. Alors, on est tout content parce qu'après 25 ans de développement dans l'industrie, la mission a été lancée le 21 avril dernier à Kennedy. Donc j'y reviendrai dans une seconde. Et donc ce qu'on va faire, on va effectivement mettre à bord de la station spatiale une horloge à atomes de césium. Donc je vous rappelle que l'atome de césium est à la base de la définition actuelle de la seconde du système international. On utilise la transition dans le niveau hyperfin fondamental et on dit qu'une seconde, c'est 9.192.631.770 périodes d'oscillation du champ électromagnétique qui correspond exactement à une transition entre les deux niveaux de l'atome. Et donc, avec cette horloge, on va faire des tests de physique fondamentaux, dont l'effet Einstein, et puis on va utiliser la capacité de relier entre elles différents instituts qui possèdent des horloges à atomes froids, que ce soit dans le domaine micro-ondes ou dans le domaine optique, j'y reviendrai après. Donc, on aura sur différents continents des antennes qui vont pouvoir échanger des signaux avec la Station Spatiale Internationale, et donc je vais vous montrer un peu les détails du hardware qui est là-haut, échanger. Il faut que ça soit à la fois des signaux montants et descendants pour compenser les fluctuations de l'atmosphère et de l'ionosphère. Ça, j'y reviendrai tout à l'heure. Voilà, alors la mission ESEUS en quelques transparents. On a eu un lancement par SpaceX, qui a un module Dragon, qui vient s'attacher à la Station Spatiale Internationale, et un bras manipulateur canadien va nous transférer sur le module européen Columbus, et ça c'est une image CAD de notre petite palette qui fait environ 1 m3, et je vous montrerai les photos tout à l'heure. Et donc avec cette palette, on va échanger des signaux avec des antennes micro-ondes au sol, comme je viens de dire sur la transparente précédente, mais aussi dans le domaine optique, avec des lasers qui envoient des impulsions ultra-courtes. Ça s'appelle European Laser Timing Signal, avec des stations laser qui servent à mesurer la distance Terre-Lune, par exemple. On peut aussi tirer sur la Station Spatiale Internationale, mais il faut diminuer la puissance des faisceaux laser. Et donc ces terminaux au sol sont reliés soit à des fontaines, soit à des horloges optiques, soit à des masers, hein. Alors tout ça, c'est piloté par le CADMOS à Toulouse, donc c'est un centre de contrôle qui se trouve à Toulouse, en France, et les données vont de Toulouse à Columbus, au centre de contrôle de la NASA, et tout ça, ça échange des données montantes et descendantes, hein, donc les télémesures et les télécommandes montantes et télémesures descendantes. Voilà, juste le schéma principal. Bon, qu'est-ce qu'on a à bord de cette plateforme ? On a un ensemble de deux horloges, l'horloge Pharao ici, et je vous montrerai les détails, donc ça fait à peu près 90 cm de long, hein, ce tube dans lequel on va faire toute la physique de l'horloge à atomes froids. La source laser est dessous, un ordinateur de contrôle et des antennes pour communiquer avec le sol. Là, c'est une antenne GPS qui s'appelle GNSS parce qu'elle marche à la fois pour GPS et Galileo, qui permet de faire l'orbitographie de notre plateforme sur la station spatiale, et le lien micro-ondes avec les antennes du lien micro-ondes, et donc la Terre pointe en haut ici, hein, vous le verrez sur les images. Voilà, donc ça, c'est ce qui a pris pas mal de temps à développer. La masse totale, 240 kg, la puissance totale, 600 watts, tout à fait adaptée à une palette externe du module Columbus. Voilà, au moment du montage, hein, donc la régulation thermique est faite avec des heat pipes, hein, des caloducs finalement, qui vont dissiper l'énergie dans l'espace. Et là, au fond, vous voyez une partie du maser. Et voilà, donc le 21 avril, j'étais heureux d'aller à Kennedy, le cœur un petit peu pincé, parce que ça fait beaucoup de bruit au lancement, hein, il y a des crépitements et tout ça. On se dit, bon, tout a été testé, hein, vibré avant, mais quand même. Et puis, c'est un spectacle magnifique parce qu'il y a deux choses magnifiques. Il y a le lancement et puis le module inférieur des fusées SpaceX revient sur Terre. Et donc, on voit la lumière des réacteurs, ça, puis la séparation des deux étages. L'étage 2 continue, le module Dragon continue, puis on finit par le perdre à l'œil environ 300 km quand c'est assez clair, on ne voit plus rien. Et puis, on voit le module inférieur qui revient sur Terre, qui fait de l'ionisation dans l'air et qui revient. Et puis, à un moment donné, cette ionisation dans l'air disparaît Et puis, à peut-être 3 ou 4 kilomètres au-dessus du pas de tir, eh bien, la fusée réallume ses moteurs pour ralentir et se poser. Et ça, ça se fait dans un silence absolu. On voit la lumière arriver, la fusée se pose, et après, on entend un mur du son, bang, bang, deux murs du son, en fait, très, très intense. Et la fusée est posée là. Donc, je vous encourage à aller voir un lancement à Kennedy. Il y en a maintenant pratiquement un par jour. Hein. SpaceX lance des fusées comme ça, une à deux fois par jour maintenant. Et donc ce jour-là, j'ai eu droit à deux lancements, un le matin à 4h du matin et l'autre le soir à 8h30. Alors, bref, notre palette SES, elle est ici dans le module Dragon. On ouvre le capot au-dessus, là, et puis le bras manipulateur canadien que vous voyez ici vient prendre tout doucement le cube SES, hein, ici, qui est à peu près cubique, comme j'ai montré, le détache de cette plateforme et vient l'attacher ici, donc là c'est un bout du module Columbus, je vous montrerai une autre photo, ici, pointant vers la Terre, donc en dessous, là vous voyez bien que c'est la Terre, pour pouvoir échanger les signaux électromagnétiques entre l'espace et la Terre. Donc il y a un film, on voit tout ça sur film, alors le film c'est très très lent, ça bouge de quelques centimètres par heure, où, ils font ça très très prudemment, et donc voilà, et donc ça a été très bien fait, merci à la NASA, et à SpaceX d'avoir installé le module européen Faraway sur le module Columbus. Alors, quelques mots sur l'horloge Pharao, qui a été designée essentiellement avec le LTE, qui s'appelait le CIRT à l'époque, hein, donc Philippe Laurent, André Clairon, bien sûr, toute l'équipe du CIRT, par nous-mêmes un petit peu au LKB. Et donc l'idée, c'est d'avoir une zone de refroidissement d'atomes ici. Donc là, on a un réservoir de césium. Ici, on a une vapeur de césium. Et on capture les atomes dans la vapeur directement, dans une mélasse optique. On n'a pas de champ magnétique du tout dans cette zone-là. On lance les atomes tout doucement dans un dispositif où là, il y a une cavité de Ramsey, hein, avec deux zones d'interaction. Il y a une zone de préparation, mais je ne rentre pas dans les détails. Une première zone d'interaction ici, une deuxième zone d'interaction ici. Le dispositif est 22 cm ici. Et puis, avec deux faisceaux laser qui sont figurés en rouge ici, on détecte les atomes dans le niveau inférieur de la transition ou dans le niveau supérieur de la transition. On mesure la transition de la probabilité de transition, pardon, en français. Et le tout est dans un ultravide poussé avec à la fois des guetteurs, une petite pompe ionique ici, et puis trois couches de blindage successifs protègent des fluctuations du champ magnétique. En orbite autour de la Terre, il y a une modulation du champ terrestre de signes et d'amplitude à environ 0,5 Gauss. Voilà, donc les atomes sont lancés à 1 microdegré Kelvin, qui correspond à une vitesse d'expansion de 8 mm par seconde. Alors, c'est amusant de comparer le design de Pharao, que je viens de vous montrer, à la première horloge à césium, qui a été réalisée en 1955 en Angleterre, au Royaume-Uni, par Essen et Parry. Et voilà leur dispositif, c'est à peu près la même chose. Ça fait environ un mètre de long, vous avez un four ici, la première zone d'interaction ici avec la micro-onde, la deuxième zone d'interaction ici, le champ terrestre est compensé par ces bobines-là, et puis un détecteur ici. Et donc, dans ce dispositif, la température était de 400 degrés Kelvin, donc environ une centaine de degrés Celsius. La vitesse des atomes qui s'échappent du trou dans le jet atomique, c'est 300 mètres par seconde. Et la résonance, la largeur de la résonance, 300 Hz, c'est le spectre que vous voyez ici. C'est une frange d'interférence de Ramsey. Je vous montrerai un peu plus tard d'autres exemples. Et ça, c'était obtenu en balayant un quartz multiplié convenablement à la fréquence de 9,2 GHz. Et alors, dès ce premier papier, les gens ont montré qu'avec le rapport signal-surbruit de ce dispositif, la stabilité était de 10.9, bien meilleure que la définition de la seconde de l'époque ou de la journée moyenne sur la Terre, hein, qui était avec des fluctuations de 10.8. Donc la définition de la seconde à l'époque, c'était ce nombre-là fois la durée de l'année tropicale 1900. Donc c'est une définition pas très très commode à utiliser 50 ans après. Et donc il a fallu quand même une douzaine d'années pour que la seconde du système international soit redéfinie à partir de cette horloge à césium, et c'est aujourd'hui encore le cas, bien que les horloges optiques maintenant pointent le bout de son nez, et je terminerai là-dessus dans mon exposé. Alors dans Pharao, au lieu de lancer à 300 mètres par seconde, on lance à 30 cm par seconde ou même moins, hein, et donc là on gagne un facteur 1000 en fait, et donc on a mesuré des largeurs de résonance de 1 tiers de Hertz, hein, ici, donc 1000 fois plus étroite que dans le dispositif. Donc le goal l'objectif de stabilité de Pharao, c'est 10-16 dans l'espace, comme pour les fontaines au sol. Les fontaines au sol font même des stabilités dans la gamme des 10-17, quelques 10-17. Et donc, vous voyez, si on regarde de 1955 à 2026, en 71 ans, on a un gain de 7 ordres de grandeur dans la précision entre 10-16 et 10-9. Et avec les horloges optiques, on ira encore 2 ordres de grandeur au-delà. Donc ça, c'est pour vous montrer la vitesse d'évolution de ces mesures de précision. Alors, un tout petit peu de description technologique, parce qu'il y a des gens qui font des atomes froids dans la salle, hein, et pour vous montrer l'effort qui a été réalisé, ça a été réalisé par la société Soderne, dans lequel Philippe Laurent, ici présent, a passé plusieurs années de sa vie à aller leur apprendre comment on réalisait des diodes laser et pour manipuler les atomes et les mettre à résonance pour pouvoir refroidir et piéger les atomes. Et donc, voilà, donc c'est un banc optique qui fait environ 20 kg, 30 watts de puissance, et le volume total, c'est 30 litres. Hein, et donc, on est assez content parce qu'on a eu 15 années d'opération sans aucun ajustement manuel, aussi bien sur Terre que dans l'espace. Donc dans l'espace, ça a fonctionné un an et un mois, comme disait Jean tout à l'heure, et ça marche très bien. Il faut retoucher de temps en temps l'injection des lasers esclaves, mais donc là vous avez des diodes laser à cavité étendue, des diodes esclaves, des modulateurs acousto-optiques, des piézos pour aligner les fibres, on n'était pas sûr qu'il n'y aurait pas un vieillissement, et donc on peut pivoter la tête de fibre pour pouvoir recueillir la lumière émise par les diodes laser, et puis des moteurs, des photodiodes et des pelletiers couleurs. Voilà. Et puis le tube césium, donc là on voit un des blindages, donc la partie détection est ici à gauche, la partie capture et refroidissement ici, ça a été vibré, le film est assez impressionnant, ça fait un bruit terrible, mais ça marche dans l'espace. Voilà, et à l'intérieur, le point central, c'est une cavité de design particulière, parce que à la différence des fontaines au sol, où les atomes passent dans la cavité à la montée et à la descente, ici, on a une seule cavité, les atomes sont en vol libre dans une seule direction, et il faut donc bien s'assurer que la phase dans la première zone est rigoureusement la même que dans la phase de la deuxième zone. J'y reviendrai. Voilà, donc SES est installée sur le module européen, ici, c'est cette boîte-là, avec ses antennes, ça communique avec le sol, et bon, ben, il faut quelqu'un au sol hein, pour recevoir toutes ces commandes et toutes ces télémesures. Donc voici la salle de commande. Alors Philippe, je ne sais pas où tu es sur la photo, mais donc on a eu, au moins pendant les trois premiers mois, des opérateurs, 7 jours sur 7, 24 heures sur 24, pour recevoir les données, vérifier que tout marchait, éviter des pannes ou des choses importantes. Et à Toulouse, je mentionne aussi qu'on a le stockage des données et l'acquisition des données se fait ici, au CADMOS. Alors, deux jours après l'installation, la température était bonne. Philippe nous envoie un transparent, une photo avec des atomes froids dans la détection. Ouf! Et puis, au bout d'une semaine, je crois que c'est ça, et bien voilà les premières franges enregistrées avec une vitesse de lancement assez élevée, hein, comme au sol, 1,5 mètre par seconde ici. C'est même moins que le sol, mais bon, pas d'importance. Les franges ne sont pas ultra étroites, 1,7 Hz, mais on est déjà content. Le rapport signal sur bruit par point, un point, là, chaque point dure 0,5 secondes. Rapport signal sur bruit demi, c'est exactement ce qu'on attendait. Ouf! Premier ouf. Deuxième ouf. transition sensible au champ magnétique. Hein, donc on n'était pas complètement sûr que les blindages ne se magnétiseraient pas un petit peu avec les vibrations du lancement. Eh bien non, vous voyez les franges sur une transition qui dépendent du champ magnétique, donc elles sont shiftées par 700 Hz par rapport à la fréquence nue de l'atome de césium, et vous avez un profil encore très symétrique, avec un très bon contraste. Et donc tout ceci, ça montre que l'atténuation du champ magnétique terrestre de plus ou moins 0,5 Gauss ici, atténuée par environ 200 000, ce qui donne, pour la correction de l'effet Zeeman quadratique pour la transition d'horloge, une incertitude dans la gamme de quelques 10-17, entre 2 et 3 10-17, suivant le champ bias qu'on applique pour l'horloge, qui est de l'ordre du milligauss. Deuxième ouf. Ensuite, on peut ralentir les atomes, on les lance de plus en plus lentement, 400 mm par seconde. Et là, on découvre une petite chose là, bizarre. Ici, il y a du bruit anormal, et ça correspond à ce qui s'appelle l'anomalie de l'Atlantique Sud. C'est au large de l'Argentine, et c'est un endroit où le champ magnétique terrestre a des perturbations importantes. Et la ceinture de Van Allen autour de la Terre, qui protège en fait la Terre de radiations et de particules chargées, est beaucoup plus fine à cet endroit-là. Et on a du bruit dans, aussi bien sur l'oscillateur à quartz qui est utilisé pour balayer la fréquence que sur la zone de détection. Alors, bon, maintenant, on sait, c'est des bruits très très rapide, hein, donc ça, c'est facile à enlever sur les temps de vol, c'est facile à enlever par un software qui vient d'être uploadé sur la station spatiale l'ordinateur de Pharaon. Ceci dit, il faut quand même se méfier de ces petites choses-là, parce qu'on ne veut pas acquérir une erreur de phase pendant la traversée de l'Atlantique, de cette anomalie de l'Atlantique Sud. Alors, on peut lancer les atomes encore plus doucement, 150 mm par seconde ici, et là on a encore un très bon rapport signal sur bruit, et là comme je l'ai dit, les franges sont de 0,3 Hz, donc trois fois plus fines que dans les fontaines au sol. Voilà. Alors on peut lancer encore un petit peu moins rapidement, et ça c'est en cours, il faut bien éliminer ces glitches de l'anomalie de l'Atlantique Sud. Alors, cette horloge c'est bien joli. D'ailleurs, les Chinois avaient fait voler une horloge en 2018 à rubidium avec des atomes froids, mais ils n'en avaient rien fait. Donc l'intérêt d'une horloge, c'est de la comparer à une autre horloge. On ne fait rien avec une horloge toute seule, hein. Sauf lire sa montre, mais on la compare avec notre œil à ce moment-là. Et donc, on a un système de temps, d'échange de temps. Je ne vais pas rentrer trop dans les détails, mais juste pour vous dire qu'on a un système dans le domaine micro-ondes avec une onde montante et une onde descendante en bande KU, hein, donc la voie descendante est à 14,7 GHz, la voie montante est à 13,4 GHz, et donc grâce à ce système, on peut compenser, en principe, très bien, l'effet Doppler du premier ordre, hein, parce qu'on est à la fois montant et descendant, et toutes sortes de défauts sur la symétrie du lien si l'émission et la réception sont bien coordonnées. Les fluctuations de l'atmosphère, par exemple, elles sont en mode commun, montant et descendant. Donc c'est une méthode deux voies qui est bien connue. Hein, on le fait dans des fibres optiques au sol aussi. On mesure l'aller-retour et on divise les fluctuations par deux et on a les fluctuations sur le trajet simple. Donc le principe est très simple. La mise en pratique est beaucoup plus complexe. Et je ne rentrerai pas trop dans les détails, mais juste pour vous donner quelques ordres de grandeur, on module les signaux à environ 100 mégas coups par seconde, hein, et ce qui permet, ça s'appelle le code, et puis on a aussi une porteuse qui est la plus haute en fréquence. Pourquoi? Parce que plus on monte en fréquence, plus on a une meilleure résolution sur la phase, hein. Donc on a une période de 67 picosecondes, et si on a un bon rapport signal sur bruit sur la phase, eh bien on aura une fraction de ces 67 picosecondes, et ça c'est une très bonne façon de mesurer les décalages de temps. Voilà, donc on fait des mesures à 80 millisecondes par point. Voilà, donc ça, ça a été développé par TimeTech essentiellement, avec le soutien de Airbus et de RMS. Alors, un point important, c'est qu'on a juste qu'à 4 utilisateurs simultanés pour faire des comparaisons entre le sol et l'espace. C'est-à-dire qu'on peut en même temps envoyer, avoir 4 dispositifs au sol qui reçoivent les signaux et émettent des signaux. Il faut les distinguer, bien sûr, pour ne pas les mélanger. Donc voilà. le graphe, les terminaux du lien micron, donc le lien micron s'appelle MWL, les terminaux terrestres, un grand terminus, on en a 7 plus 1, 1 qui est transportable, et ils sont installés, on en a 4 en Europe, 1 au LTE bien sûr, 1 au NPL en Angleterre, 1 à la PTB et 1 à l'observatoire de Wetzel qui fait des tirs laser. Donc là vous avez une image du terminal sur le toit de l'observatoire à Paris. Hein. Là, c'est la tour Montparnasse, dans le fond. Et puis là, vous avez trois trajectoires successives de l'ISS qui vous montrent qu'avec la rotation terrestre, eh bien, les passages successifs sont décalés et vous pouvez détecter trois ou quatre passages successifs. Puis après, il y a un temps mort d'environ une journée et vous avez à nouveau des passages de la station spatiale au-dessus de votre tête. Et comme l'orbite de la station spatiale, c'est... La période orbitale, c'est 5400 secondes, vous voyez, une heure et demie à peu près, eh bien, vous avez typiquement trois passages successifs, et puis après, ce petit temps mort, de façon que la rotation de la Terre vous permette à la station spatiale de repasser au-dessus de vous. Par exemple, ici, ça passe au-dessus des États-Unis. On a deux terminaux aux États-Unis, un en Californie au JPL, un à East Boulder, Colorado, un terminal au Japon, NICT, et puis les quatre terminaux en Europe que je viens de mentionner. Donc voilà les images, l'installation sur le toit. On a un radome autour de l'antenne, stabilisé en température pour ne pas acquérir de décalage de phase dû aux fluctuations de température. Donc on voilà un autre qui est installé. Là, c'est le deuxième à Paris, justement. Celui-là, c'est celui du JPL. Vous voyez, la Californie un petit peu aride, à Pasadena. Celui-là, c'est celui du NIST à Boulder, Colorado, où il y a les horloges de Juni, les horloges optiques de très haut niveau. Il y a aussi une fontaine. Et puis celui-là, c'est celui du Japon, qui n'est pas encore en fonctionnement. Et le dernier, celui de la PTB. Les derniers, celui du NIST de la PTB, il ne marche que depuis une semaine. Donc on n'a pas encore pu échanger beaucoup de signaux avec eux. Les premiers qui ont marché, c'était celui à Paris, et puis celui au JPL. Mais au JPL, ils n'ont pas de très bonnes horloges, ils n'ont que des masers, et je vous donnerai un exemple tout à l'heure. Voilà, donc on a un système qui est pratiquement opérationnel quand ils nous remettront le jus à bord, parce qu'en ce moment, le jus a été coupé pour installer une autre plateforme. Voilà, donc, l'horloge spatiale va être comparée à des fontaines au sol, des fontaines à césium, ou aussi des fontaines à rubidium. Et donc, voyez ici une des fontaines qui a joué un rôle très important dans les données que je vais vous montrer maintenant. C'est une fontaine double, en fait, qui fonctionne à la fois avec le rubidium et avec le césium. Donc, on a deux fois plus de données dans le même dispositif. Voilà la fontaine de la PTB avec Stephen Weyers, ici en train de l'assembler. Une des fontaines du NIST et une fontaine à INRIM. Alors là, j'insiste, ce qui est important avec ces fontaines, c'est que le temps atomique international est piloté par ces fontaines et le Bureau international des points et mesures génère ce qu'on appelle le temps coordonné universel qui permet de réaliser la seconde exactement la même, avec une certaine incertitude, dans tous ces laboratoires. Et on va utiliser cette propriété dans une minute pour mesurer le redshift. C'est-à-dire qu'on va, avec l'UTC de l'Observatoire de Paris, on va comparer l'écoulement du temps dans la fontaine à césium au sol, à Paris, avec l'écoulement du temps de l'horloge Pharao dans l'espace, dans un potentiel gravitationnel différent. Voilà, donc il faut pour ça que le lien marche bien. Alors là, j'ai un petit paragraphe de bonnes et mauvaises nouvelles. Il y a eu des bonnes nouvelles et des moins bonnes nouvelles. Comme souvent, dans les missions spatiales, il y a des surprises, des choses qui marchent moins bien. Et alors, on a été très bien impressionné. On a une très bonne stabilité de température de la plaque de base. Ça, c'est très bon pour Pharao. Les lasers restent verrouillés pendant plusieurs semaines. Deuxième bonne nouvelle, jusqu'à aujourd'hui, au moins, les micro-vibrations ne perturbent pas l'horloge Pharao. Nous craignons que les astronautes à bord font de la gymnastique tous les jours. Ça crée des micro-vibrations. Ça module le temps d'interaction des atomes dans la cavité de Ramsay. Et pour les vitesses les plus basses, ça peut faire une perturbation de l'horloge. Alors, l'horloge à temps froid, comme je l'ai montré, marche très bien. La deuxième bonne nouvelle, c'est que l'orbite est très très bien déterminée par le récepteur JAVAD qu'on a à bord, hein, qui est un récepteur double GPS Galileo, qui est installé sur notre palette, et l'orbitographie restituée par l'organisme allemand, DLR, et Martin Vermouth, et ils nous donnent l'orbite au niveau du mètre, ou même un petit peu en dessous du mètre comme précision, ce qui est dix fois mieux que ce qu'on attendait, et ce, malgré des données, des gaps de données, et la station spatiale n'est pas du tout un satellite facile à modéliser, parce qu'il y a ces grands bras solaires qui font la taille d'un terrain de foot, et la pression du soleil et toutes sortes de choses, il y a du drag aussi le long du mouvement, et l'orbitographie est faite avec une très bonne pression, même quand il y a des changements d'attitude, et ça c'est très important pour la continuité des données que je vais vous montrer sur les prochaines slides. Alors, les mauvaises nouvelles, il y en a deux, une plus grave que l'autre. La première qui nous a fait stresser pas mal, c'est que le Maser n'a pas voulu s'allumer. Bon, beaucoup de choses avaient été faites au sol dans les tests, mais... Alors, en fait, quand je dis qu'il n'a pas voulu s'allumer, ce n'est pas tout à fait vrai. Il a marché pendant 2 jours et demi, ou 3, avec un niveau de puissance qui s'est cassé la figure très rapidement. On sait qu'il y a un problème sur la pompe ionique, parce que les signaux du courant de la pompe ionique donnent rien de significatif, mais on ne sait pas vraiment la cause du fait que le Maser soit au voisinage du seuil. Peut-être que le vide n'est pas tout à fait assez bon, on ne sait pas en fait. Et donc ça a 2 conséquences. On avait l'intention de mesurer les effets systématiques de Pharao simplement à bord, en permanence, en changeant les paramètres de l'horloge pour... On sait qu'il y a des déplacements collisionnels entre les atomes, et on change la densité, et on voulait mesurer ça très rapidement, en permanence, avec le Maser. Boum, ça, on ne peut pas le faire. On peut le faire seulement avec des comparaisons avec le sol. Et puis, une chose un peu plus subtile, c'est qu'on avait une boucle d'asservissement du quartz de Pharao, bien que ce soit un très très bon quartz, on l'améliorait au temps long par un asservissement sur le Maser. Le Maser n'est pas là, donc on ne peut pas faire ça. Ça veut dire qu'il faudra qu'on moyenne, pour avoir les objectifs scientifiques qu'on veut faire sur Pharao, il va falloir moyenner plus longtemps. Mais heureusement, l'horloge Pharao marche très bien, le lien marche très bien, comme je vais le montrer. Et donc, le point clé, c'est que l'exactitude de Pharao dans l'espace sera seulement déterminée par des comparaisons de phase et fréquence entre l'espace et le sol. La deuxième nouvelle, mais qui est moins grave, parce qu'on est en train de travailler dessus, mais c'est qu'on a un bruit en bande S à cause de multipasses. Alors, qu'est-ce que c'est le multipass? C'est des effets d'interférence, et c'est des effets d'interférence entre les missions. L'antenne qui émet a une partie de son signal, très faible partie de son signal, qui rebondit sur les panneaux solaires ou sur les autres objets qui sont installés sur la station spatiale, et ça fait un signal qui vient d'un autre point, et ça interfère, en amplitude bien sûr, c'est des interférences, et ça crée une modulation de phase, et on a un excès de bruit en bande S qu'on ne voyait pas sur les essais au sol, ce qui nous empêche de retrouver exactement le cycle, hein, donc il faut faire ça à une fraction de 60 picosecondes, on ne peut pas retrouver exactement un cycle à cette période en bande KU. On a un bruit qui est de l'ordre de 1,5 fois ce cycle, donc la centaine de picosecondes. Mais avec ça, on peut quand même travailler parce qu'on fait du transfert de temps, et le transfert de temps, plus on éloigne la base entre la mesure d'instant initial et la mesure d'instant final, meilleure est la détermination de l'écart de temps et donc de la fréquence, qui est la dérivée de l'évolution de la phase en fonction du temps. Voilà. Donc, malgré tout ça, on a fait des premières comparaisons avec un bruit statistique, seulement statistique, ici, au niveau de 2,5 × 10⁻⁶. Et là, il y a des travaux en cours de calibration, etc., pour essayer de s'approcher de un cycle. Voilà. Donc, je vais vous montrer maintenant les premiers efforts pour faire un test décalage gravitationnel des horloges, l'effet Einstein. Donc un tout petit historique. La première expérience fameuse, c'était Panay-Rebka, Harvard, en 1964, avec l'effet Mossbauer et une tour de 20 mètres de haut, qui avait fait un test à 10% du fait que une horloge à 1 mètre de haut par rapport à une horloge au sol diffère en fréquence de 10⁻⁶. Donc sur 20 mètres, ça faisait 2 × 10⁻⁰, c'est ce qu'ils ont mesuré avec une très belle expérience d'effet Mossbauer. Alors, pendant longtemps, le record était détenu par Bob Vesseau, qui avait envoyé un Maser dans l'espace, one shot, hein, une mission de 2 heures, Et en comparant de façon continue la fréquence du Maser dans l'espace avec ces Masers au sol au Smithsonian, il a pu faire un test très précis du redshift, hein, du calage gravitationnel et de l'effet Doppler du deuxième ordre, hein, une précision de 1,4 × 10⁴. Alors ensuite, ça a été fait pour des expériences de démonstration, pour montrer que les horloges optiques étaient très sensibles. Le groupe de Wineland, en 2010, a soulevé une horloge de 30 cm et a vu que le décalage correspondait à 3 × 10⁻¹, mais ce n'était pas un test très précis à 30%. Le test le plus précis à ce jour est venu des satellites Galiléo. Il y a des satellites Galiléo qui ont été mal lancés, qui ont été lancés sur une orbite elliptique, et en utilisant les horloges et la modulation du redshift à cause de l'orbite elliptique, hein, donc quand il y a une modulation du redshift finalement, en analysant les données des horloges à bord, donc c'est le groupe de l'observatoire, Pacum Delva, Peter Wolf et collègues, dans ce PRL de 2018, ont montré que c'était compatible avec la relativité générale à 2,5 × 10⁵. Plus récemment, avec des horloges optiques, Katori, en 2020, avec la tour télécom de Tokyo, qui fait 450 mètres de haut, a comparé une horloge à strontium au sol à une horloge à strontium à 450 mètres de haut, et a pu mesurer, au voisinage du sol, le décalage gravitationnel au niveau de 10.4. Et puis pour finir, je mentionne qu'une très belle expérience qui montre la sensibilité des horloges optiques aujourd'hui, c'est ce papier du groupe de Juni Ajila, dans ce papier, où ils ont vu le décalage gravitationnel sur un nuage qui fait seulement 1 mm de haut. Vous voyez, c'est un nuage de strontium, voilà l'image absorption imaging, hein, donc vous avez l'unité, hein, donc moins 0,5 mm, moins 0,5 mm, plus 0,5 mm. Il a mesuré la fréquence des atomes de la moitié supérieure ici et comparé à la fréquence des atomes de la moitié inférieure sur un seul millimètre de hauteur. Et là, bon, avec une résolution de quelques 10⁻¹⁰, une résolution alors relative, hein, ce n'est pas une horloge à 10⁻¹⁰, c'est une horloge différentielle à 10⁻¹⁰, il a pu tester le redshift, mais c'était une manip de démonstration de la très très haute sensibilité pour le redshift. Alors évidemment, quand on va dans l'espace, on a sur la station spatiale, on a 400 km de distance. On a bien plus que les horloges optiques ici. Et donc voilà les chiffres qui s'appliquent à la station spatiale, orbite 450 km, l'effet Doppler de vitesse de rotation 7 km par seconde, donc on a un effet Doppler du premier ordre gigantesque, hein, 2 × 10⁵, l'effet Doppler du deuxième ordre, qui est le fameux ralentissement des horloges dans un référentiel en mouvement par rapport à un référentiel fixe, c'est le V2 sur 2C2 de cette formule que je vais commenter dans une seconde. Celui-là est assez grand, donc c'est un ralentissement, donc c'est moins 3 × 10⁻¹⁰ en valeur relative de fréquence delta nu sur nu. Le redshift que l'on cherche à tester, lui, il est plus petit, un facteur 6 plus petit, avec un signe opposé. Donc c'est un blue shift, comme on dirait, un décalage vers le bleu, 5 × 10⁻¹⁰. Et donc, vous voyez tout de suite que pour bien mesurer ce terme-là, il faudra bien connaître l'orbitographie, hein, donc à la fois pour connaître le potentiel et à la fois pour connaître la vitesse avec suffisamment de précision pour enlever le terme le terme d'invariance de Lorentz, hein, le terme de relativité spéciale, qui lui est très bien connu. Hein, donc on peut le considérer comme très bien vérifié. Voilà, donc après, l'orbitographie doit être faite à mieux que 10 mètres par seconde, donc c'est discuté dans cette série de papiers, hein, donc Blanchet, Duchesne, Astronomie et Astrophysique 2011. Alors voilà la formule qu'on utilise pour faire la comparaison espace-sol. Alors, c'est une partie complètement simplifiée, hein, donc je vous renvoie à ces papiers pour plus de détails. Alors j'appelle tau le temps propre. Le temps propre réalisé par une fontaine à césium au sol, tau G, grande, et tau S, le temps propre réalisé par l'horloge pharao dans l'espace, tau S. T, c'est un temps coordonné, c'est-à-dire je vais émettre un signal à l'instant T, et suivant la ligne d'univers de ma station sol par rapport à un référentiel centré au centre de la Terre qui ne tourne pas, c'est ça mon référentiel de base. Donc c'est ce temps coordonné. Et donc ça va être la somme de deux termes, le terme de de l'effet Einstein, hein, le U sur ces deux, donc c'est la différence des potentiels entre le satellite XS à la position du satellite XS et la position de la station sol XG, donc c'est cette différence de potentiel qui est ce qu'on appelle le redshift, et puis l'effet Doppler du deuxième ordre qui correspond à la différence de vitesse entre la vitesse au sol, de la fontaine au sol, et de Pharaon dans l'espace. Voilà. Et ça, c'est valable jusqu'à un petit taux de 1 sur C4. Il n'y a pas de terme cubique dans cette comparaison. Voilà, et donc le lien micro-ondes à deux voies est là pour éliminer l'effet Doppler du premier ordre, hein, et puis l'effet Sagnac qui est inclus en fait dans cette formule. Donc, avec une horloge et quelques chiffres, avec une horloge à 1 ou 2 10-16, donc il nous reste à montrer que l'exactitude de Pharaon dans l'espace est dans cette gamme-là, on espère viser 1 10-16, on peut faire un test du redshift à 2 ou 3 parties par million, qui sera un gain d'un facteur 10 par rapport au test existant. Alors voilà les données, les premières données, où on trace ici, en octobre, hein, comparaison, et toutes mes comparaisons que je vais montrer là vont être faites avec les horloges en fontaine du CIRT. Donc, qu'est-ce qui est plotté ici? C'est l'écart de phase, hein, donc le décalage de phase entre l'horloge Pharaon dans l'espace et l'UTC, le temps universel coordonné, réalisé à l'Observatoire de Paris, c'est-à-dire la définition de la seconde par la fontaine à l'Observatoire de Paris, enfin, l'UTC réalisé à l'Observatoire de Paris, qui est plutôt un maser, je devrais dire. Et donc là, ce qu'on voit, c'est que sur 14 jours, on a les points rouges qui sont les résultats de mesure. Rappelez-vous, 3 passages par jour. Donc là, on a à peu près 3. Ici, on en a 4. Hein, donc ça, c'est les mesures faites par un passage qui dure environ 5 minutes au-dessus de l'Observatoire de Paris. Et puis, le système est cohérent en phase. Hein, donc la phase continue à évoluer. On voit que ça fait une très belle droite. On a retranché le terme de relativité principale parce qu'il est gigantesque. Sinon, on ne verrait pas des choses au niveau de 10-14, comme il y a ici. Donc, on a retranché l'effet relativiste le plus gros parce qu'il est à 10-10. Hein, donc, pour voir les petits détails, il faut faire cette soustraction d'évolution de phase. Donc, comme vous savez, une phase n'a pas d'unité. Hein, et donc, ce qu'on voit, c'est l'évolution temporelle de la phase, et on voit que cette phase change de 2,5 10-8, 3 10-8 ici en haut, sur une durée de 14 jours. Voilà. Et donc là, vous avez dφ sur dt, ça vous donne une fréquence. Et donc on mesure ainsi la différence de fréquence entre Pharaon dans l'espace et l'UTC à l'Observatoire de Paris. Et dans ce cas particulier-là, c'est 2,314, 10-14, avec une barre d'erreur de 6, 10-16. Alors, ce n'est pas ces chiffres qui sont intéressants. Ce qui est intéressant, c'est de voir que, d'une part, on est capable de faire cette détection de phase pendant une durée longue, et on voit que malgré, puisqu'on a, on a inclus la relativité, donc inclus l'orbitographie, malgré des dockings d'éléments de fusée ici sur la station spatiale, ici, la station spatiale a changé d'orientation, donc vous voyez, il y a des petits écarts à la droite ici, hein. Ici, il y a eu un reboost de la station spatiale, c'est-à-dire qu'on l'a repoussée vers le haut, parce que sinon, avec le drag sur l'air, elle finirait par fumer dans l'atmosphère. Et donc, malgré tout ça, l'orbitographie est de suffisamment bonne qualité pour pouvoir faire ce type de fit avec une erreur, là, ici, de 6, 10-16. Voilà, donc ça, maintenant, on va zoomer un petit peu. On a changé, par exemple, ici, la densité dans l'horloge Pharaon, de haute densité à basse densité, et on va faire un zoom sur l'écart assez droit, tout simplement. C'est ce qu'on trouve ici sur ce graphe, et on va chercher à mesurer ce qu'on appelle le déplacement collisionnel. Et donc, à ce jour-là, hein, 60 985, on a changé la densité. Et là, vous avez les points de mesure successifs. Alors, avec l'UTC réalisé par le Maser, l'Observatoire de Paris, en noir, la courbe du bas, avec Pharaon, la fontaine à rubidium, la courbe intermédiaire, et Pharaon, la fontaine à césium, qui est celle qu'on veut utiliser pour le redshift, en bleu, ici. Donc, vous voyez, on fit avec une droite à gauche, on fit avec une droite à droite, et on trouve le changement de la fréquence qui vaut ici 3,8 10-15 plus ou moins 4 10-16. Et ça, ça correspond au déplacement collisionnel pour cette vitesse de 640 mm par seconde. Et on fait ça pour plusieurs vitesses de lancement, et c'est ce qu'on est en train de faire actuellement. On voit aussi une chose intéressante ici, c'est que on voit bien que les courbes bleues et rouges, elles sont très très parallèles hein, ensemble, avec des fluctuations quand même, et donc les deux fontaines sont meilleures que l'UTC. L'UTC, tel qu'on le réalise à Paris, il a des bosses beaucoup plus, ce qui n'est pas complètement surprenant. Donc on se compare directement en fait aux fontaines, et l'UTC est là pour faire des comparaisons plus internationales, comme je vais le montrer après. Alors, où en est-on vers le test du redshift? Ben, voici la prédiction faite par la prédiction par la relativité générale qui inclut les deux termes de relativité. À partir de l'orbitographie, le potentiel, le géopotentiel de la Terre, voilà ce qui est prédit. Hein, l'évolution en phase, en unité de 10-8, à nouveau, on a enlevé moins 2,8, 10-10, qui est le terme dominant d'effet Doppler du second ordre, et aussi un peu du redshift là. Et donc, on voit que quand il y a un reboost, eh bien, l'évolution de la phase change. Ici, il y a un deuxième. Alors, reboost, on rehausse la station spatiale de quelques kilomètres, hein, dizaines de kilomètres. Voilà. Alors, ça, c'est la courbe attendue par la théorie. Les points rouges sont les points mesurés, mais on a triché, là. Hein, on a dit que ce point-là, ici, on l'a mis arbitrairement sur la courbe. Et pour faire le test du redshift, c'est justement ce qu'on ne veut pas faire. Mais là, pour vérifier tous les effets systématiques, on a vu qu'on était capable, en fait, de reproduire assez bien avec les mesures, sur des durées assez longues, là, ici, l'évolution qu'on cherche à mesurer avec la plus grande précision. Et donc, c'est comme ça qu'on fera le test du redshift quand les données auront été toutes accumulées. Voilà, donc là, on avait un seul fit, un seul paramètre de fit, on a ajusté un de ces points sur la courbe verte. Voilà. Alors, vous voyez, c'est un peu modulé, là. Et heureusement qu'on a une orbitographie suffisamment précise, parce que la station spatiale ne suit pas du tout les lois de Kepler. Il y a de la friction, il y a une modulation, il y a du drag d'un côté ou pas. On voit qu'on a une modulation de l'orbite hein, de 0,3%, se traduisent ici par une modulation des effets relativistes qui sont à la période de l'ISS 5400 secondes. Voilà. Néanmoins, nos points rouges ils sont parfaitement bien sur la courbe, donc on a assez confiance sur la capacité à faire ce test. Et évidemment, c'est un travail en progrès. On est en train d'évaluer les effets systématiques de Farao qui sont, comme je l'ai dit, le déplacement collisionnel, et qui est pathologique, comme Jean le sait très bien, le déplacement collisionnel dans les horloges à césium, il y a une résonance à énergie nulle, qui est très intéressante aussi dans l'horloge Farao, et donc il faut mesurer les collisions très très soigneusement. Et puis le deuxième terme qui n'est pas présent dans les fontaines, c'est le gradient de phase entre la zone 1 et la zone 2 de Ramsey. Ce terme est petit, on en a l'ordre de grandeur, de l'ordre de 1,7 × 10⁻¹, pour 1 mètre par seconde, et on va lancer beaucoup moins, donc on va arriver à le mesurer très bien, mais on est en cours d'établissement du bilan d'exactitude de cet ange. Bon, je vois le temps qui passe, donc je ne sais pas si j'ai 2 minutes pour vous montrer. On a fait les premières comparaisons intercontinentales avec le JPL, et l'objectif ici, maintenant, c'est un objectif de contribuer au temps atomique international par une méthode où on ne peut pas utiliser les fibres. Donc, avec le système de temps-fréquence de Farao et SEUS, on voudrait faire une comparaison ici, hein, avec Farao. Farao transporte son temps pendant quelques milliers de secondes jusqu'aux États-Unis, par exemple, et comme Farao est une bonne horloge, il y a très peu d'erreurs qui sont accumulées entre là et là. Et puis là, on fait la deuxième comparaison vers le sol, et avec ça, on espère pouvoir faire des comparaisons sol-sol, on ne l'a pas encore montré, mais au niveau de 10-17, ce qui est bien mieux que ce qu'on fait avec le système GPS actuel. Et par ailleurs, en Europe, à partir de juin, on va faire des comparaisons en ce qu'on appelle en vue commune avec les 4 terminaux en Europe pour établir l'exactitude en fait, du système de transfert de temps. Est-ce qu'on n'a pas de dérive long terme, des choses comme ça? Et ça sera fait avec un lien fibré qui fonctionne entre Paris le NPL en Angleterre et la PDB en Allemagne. Et là, on va pouvoir vraiment qualifier les performances du lien micro-ondes, dont on espère qu'il nous permettra de faire des comparaisons d'horloges à 10-17, peut-être un petit peu mieux si les horloges fonctionnent pendant longtemps. Alors, l'exemple de comparaison avec la Californie est montré ici. C'est très simple. On mesure Pharao moins le temps à l'Observatoire de Paris, en rouge. Pharao moins le Maser en bleu, ici, hein, quand Pharao vole au-dessus, et on voit la différence de phase entre Pharao et l'un des deux terminaux, donc ces deux terminaux. Le Maser du JPL, il n'est pas relié au temps universel coordonné, il est relié seulement à USNO, le Naval Observatory aux États-Unis. Donc c'est la courbe noire, hein, donc il n'y a pas de réalisation de l'UTC au JPL. C'est la courbe noire et par ailleurs, par l'UTC, on s'est comparé le temps universel coordonné de l'USNO à celui de l'Observatoire de Paris, c'est la courbe verte. Et donc, tout ça pour dire que en fait, toutes ces pentes, donc la fréquence, c'est la dérivée de l'évolution de la phase est linéaire ici, donc toutes ces pentes doivent s'ajouter à zéro. Et ça marche. Hein, quand on ajoute toutes ces pentes à zéro, à mieux que 10-15. Donc c'est montré ici sur ce graphe, ici. Quand on fait la comparaison UTCOP moins USNO par Pharao, on trouve 4,8-10-16. Quand on trouve, par la circularité du BIPM, on trouve 4,8-10-16. Par Pharao et Seuss, on trouve 1,3-10-15. Avec des barres d'erreur qui sont complètement... Il y a 8 d'écart entre les deux, 8, 10, moins 7 d'écart entre les deux, et c'est une manip préliminaire, le Maser, enfin voilà, c'est quick and dirty comme on dit, mais au moins ça nous permet de voir où est-ce qu'on est dans l'évolution des comparaisons intercontinentales, qui est un des objectifs secondaires très importants. Je termine justement avec, oui je suis désolé, hein, 12h16, avec ce transparent. Comme vous le savez, les horloges optiques ont fait des progrès absolument spectaculaires ces dernières années, hein, depuis les années 2000, elles ont croisé les performances des horloges micro-ondes simplement parce que l'oscillateur, au lieu de battre à 10 GHz, bat à 500 THz ou 600 THz. Donc le pendule bat 100 000 fois plus vite en fait, dans une horloge optique que dans l'horloge micro-ondes. Et donc ça permet d'avoir des performances qui sont maintenant, en termes d'exactitude, autour de 10-18, un peu mieux que 10-18 ici. Et donc, la question se pose de redéfinir la seconde du système international, parce que ce n'est pas bon de garder un étalon. C'est l'expérience qu'on a vue avec l'effet Josephson-Jean, dont tu as parlé tout à l'heure. Les unités, avec l'effet Hall quantique et l'effet Josephson, les unités électriques étaient devenues bien mieux réalisées avec les effets quantiques que la définition du volt et de l'ampère, qui était la force exercée par deux fils à un mètre de distance. Et il a fallu attendre 2018 pour que les unités du système international se raccrochent aux unités quantiques. On a fixé la constante de Planck, la charge de l'électron, et donc Jean en parlera sûrement dans ses cours après. Donc c'est un exemple où la physique quantique a apporté une amélioration considérable dans la réalisation des unités électriques qui sont super importantes, évidemment. Donc c'est pas bon de garder un étalon. Alors il aura vécu 70 ans, c'est pas mal, hein, déjà très bien pour le césium. Et avec Pharao, on vise vraiment 10-16 d'exactitude ici. Et grâce à ça, on espère pouvoir comparer entre elles ces horloges optiques qui sont soit fondées sur des atomes neutres, strontium, ytterbium, donc là vous avez des images dans des réseaux optiques ici, mercure, soit des ions. Les ions piégés ont aussi de très très bonnes performances avec des tout petits nombres d'ions dans l'horloge, ou éventuellement un. Et donc là, il y a un débat, hein, quel type d'atome utiliser pour la prochaine définition de la seconde. C'est ce qui est en cours de discussion au sein du BIPM actuellement. Voilà, j'en ai fini. Pour résumer, nous sommes à la fin sur la mission Esseuse Pharao de la phase de reset en vol, hein, le commissioning. Hein. Les terminaux viennent d'être installés à la PTB et à NIST, ils commencent à marcher depuis la semaine dernière, donc on n'a pas encore vraiment de données qu'on peut utiliser. Le terminal au NICT au Japon va être en cours d'upgrade, et celui de Wetzel va être installé, donc on n'a pas fini le déploiement, même un an après le lancement de ces terminaux. Airbus pourrait aller un petit peu plus vite sur ces choses-là, et on a besoin d'une opération du lien micro-ondes continue. Alors, avec ça, on va, dans un premier temps, déterminer les performances du lien micro-ondes, c'est très important. On n'a pas encore détecté les photons des lasers ultra courts picosecondes à bord. C'est un souci, ça, parce qu'on devrait les détecter et on n'a pas de signal pour l'instant. Donc, les gens travaillent, Anja Schlicht à Thum, à Munich, Uli Schreiber à Wetzel. Qu'est-ce qui se passe? Alors, on n'a pas le droit de tirer trop fort sur la station spatiale parce qu'il y a des astronautes. Et donc, tout ça, c'est à la fois une discussion avec le safety panel de l'ESA et de la NASA. Ça prend un temps fou avant d'avoir l'autorisation simplement d'augmenter la puissance laser de 30%. Hein, donc, c'est un petit peu irritant. Et puis, donc là, dans les deux années qui viennent, on va finir, on a déjà bien avancé, hein, l'évaluation de Pharao à 10.16. Et pour ça, les deux termes principaux, c'est la vitesse de lancement et les densités, variations de densité. Et puis, on va faire les comparaisons continentales et intercontinentales, comme je vous ai indiqué. Et à partir de ces données, là, j'ai donné juste l'exemple du redshift, mais on peut utiliser la modulation de la station spatiale internationale autour de la Terre pour faire des recherches de matière noire ou de variabilité des constantes fondamentales, à la fois en mettant en réseau toutes ces horloges optiques et en utilisant l'orbitographie de la station spatiale internationale. Je vous remercie pour votre attention. Et pour terminer, deux points importants. On a, grâce au prix Balzan, on a deux postdoc positions qui sont disponibles au LTE pour nous aider sur la data analysis, parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de données et beaucoup de travail pour interpréter ces données. Voilà, et puis là, c'est les logos de tous les contributeurs. Je vous remercie pour votre attention.
Collège de France, le savoir en illimité. Retrouvez tous nos contenus audio et vidéo sur notre site collège-de-france.fr, les plateformes de podcast et nos chaînes YouTube.